Quartier d'art est une toute nouvelle case radiophonique sur Art District Radio. Au gré de nos envies et de nos découvertes, ce petit reportage sous forme de promenade, de balades sonores, de rencontres et de découvertes artistiques va vous proposer de pérégriner un petit peu au milieu des ateliers d'artistes ou des lieux d'exposition. Pour ce tout nouveau premier numéro, nous allons à la rencontre des ateliers du Père Lachaise Associé qui expose du 11 au 13 mai 41 artistes. Nous allons donc pouvoir pérégriner ensemble au cœur du 20e arrondissement et nous allons dénicher quelques ateliers d'artistes. La balade commence au métro Alexandre Dumas.
Elle est dédiée au tissage et au tressage dans la sculpture contemporaine. On avait déjà réalisé cette exposition à Lille sur la Sorgue l'année dernière dans notre maison mère. Et ici, on expose seulement les œuvres qui appartiennent à la collection de la Fondation. Et du coup, on explore un peu tous les différents matériaux, différentes techniques et supports qui permettent justement aux artistes de montrer le tissage et le tressage dans la sculpture. Sinon, l'exposition elle est ouverte jusqu'à fin juin. Et vous pouvez venir, on est ouvert toujours en entrée libre et on ouvre de mercredi à samedi de 14h à 18h30 et voilà.
Alors Maria, vous êtes médiatrice culturelle ici, juste un petit mot du coup devant cette installation qu'on a devant nous.
Alors on a devant nous une installation de Marinette Cueco. Marinette Cueco, c'est une artiste qui travaille avec la fibre végétale. Elle tisse, elle tricote, elle fait un peu toujours les techniques de la broderie. Et ici, cette installation, elle s'appelle Hivernage, Fagot et Pelote. C'est une installation qu'elle a commencé à faire en 1990 et les pelotes les plus récentes, elle les a fait cette année. Du coup, c'est une installation qui grandit avec le temps, qui change. Et on voit aussi qu'il y a cette matériau, justement, les plantes qu'elle a tissées et tressées, il évolue aussi avec le temps. Elles vont vieillir, elles vont donner des nouvelles couleurs. Et du coup, c'est un peu ça le cœur de travail de Marinette, le travail avec les plantes.
Donc toutes les œuvres ont un rapport avec le tissage, oui. Ici. Combien d'artistes à peu près ou d'œuvres vous présentez dans cette exposition? Il y a un panel assez large, j'imagine.
Oui. Alors on présente 40 artistes différentes. La particularité de notre espace, c'est que chaque fois, on propose à un artiste d'investir un espace. Et du coup, pour cette exposition, on a proposé à Marinette Cueco. Du coup, elle a une salle entièrement consacrée à elle et après le patio pour l'installation. Et sinon, le reste, c'est tous des artistes différents.
Merci beaucoup, Maria, de nous avoir présenté en quelques mots cette exposition. Merci.
Je vous en prie.
Tissage, tressage, quand la sculpture défile à Paris, c'est une exposition que vous pouvez voir encore jusqu'au 29 juin à l'espace Monte Cristo, qui est hébergé en fait par la fondation Villa d'Atrice. Une magnifique exposition avec des grands noms de l'art contemporain comme Laure Prouveau, Annette Messager ou encore Sheila X.
L'atelier d'Alexandra Pozzo di Borgo avec en artiste invité Farzane Tavgodi. Vous êtes toutes les deux à côté de moi. Je viens de rentrer dans votre atelier qui est donc en portes ouvertes. On voit beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Mm-hmm. C'est l'occasion vraiment de montrer vos œuvres aujourd'hui, j'imagine. Oui. Un petit mot, donc Alexandra peut-être.
Les portes ouvertes, c'est l'occasion de présenter à des gens qu'on n'a pas l'habitude de croiser. Et je crois que c'est assez réciproque, quoi. C'est-à-dire que les gens qui visitent, ils n'ont pas l'habitude de rentrer dans les ateliers. Donc ça, c'était la première motivation. Et le fait d'être de toutes les deux, c'était évident. Voilà, c'est parce qu'on travaillait ensemble souvent.
Vous êtes peintres toutes les deux.
Peintres toutes les deux. On s'est rencontrés au moment d'une formation en décor peint. Donc on vient du Trompe-l'œil. Enfin, moi, je viens du Trompe-l'œil et Farzane était aux Beaux-Arts. Voilà.
Oui, voilà, comme a dit Alexandra, on travaille depuis longtemps ensemble. Dernier temps, on a visité l'Iran, le pays que je signais. Et on a fait une exposition très intéressante à partir de ce voyage. et on a fait beaucoup de peinture par rapport à ça.
Cette année, je me suis intéressée à Vermeer.
Elle regarde les tableaux anciens et autrement, et dans une autre dimension, en fait, c'est plus grand, c'est des formats d'aujourd'hui, en fait. Et elle exploite en fait plus la matière qui a un regard très différent et qu'elle porte sur les peintres comme Vermeer, Rembrandt, Vermeer et de Millet aussi.
Sur quoi tu travailles précisément?
Moi, je travaille sur différentes périodes. C'est l'histoire de mon pays qui m'était intéressée quand je suis venue ici. Pas tout de suite, mais après des années. Quand vous êtes ici, vous vous posez des questions sur votre identité et vous retournez en arrière. Une période que je voulais travailler, c'était période du 19e siècle, que j'appelle les filles de Gadjar, parce que les femmes sont, en fait, dans toutes les apparences très fermées, très voilées. Il y a des femmes dans les cours, ils étaient presque nus, quoi. Alors, ça m'intéressait de travailler cet aspect de hypocrisie, en fait, de cette époque ou époque actuelle. Voilà.
Et là, le soleil vient d'arriver dans l'atelier, donc c'est quand même un lieu magnifique. Formidable. Juste une dernière question. Ouais. Alexandra, ça fait combien de temps que vous êtes dans cet atelier, ici, au fond de cette petite rue très tranquille du 20e arrondissement?
Oui, la rue Lignée, ça fait pas longtemps, en fait. Depuis 2010. Voilà. Et ça fait 4 ans que je participe aux Portes Ouvertes. Mais je suis très, très contente de participer à cette vie du quartier, quoi.
Bah on vous laisse, on va continuer notre promenade. Okay, et puis très bon après-midi avec tous ces curieux qui viennent vous découvrir. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup pour votre visite.
Bonjour Anne. Anne Milot, donc, oui. Vous êtes céramiste. Je viens d'entrer dans votre atelier qui se trouve dans une sorte de petite cour, en fait, comment on peut appeler ça ici? C'est une petite cour avec un atelier qui donne dessus, en fait. Hein.
Oui, voilà. En fait, il y a très longtemps de ça, c'était un chemin qui permettait à la reine de rejoindre le château vers le nord, le château du côté du carré Baudouin, pas le carré Baudouin, comment il s'appelle? L'Ermitage, voilà. Et ça lui permettait d'éviter de passer par les faubourgs.
Alors c'est un petit chemin privé du coup.
Oui, mais avec les constructions, l'urbanisation, le chemin il est obstrué quoi.
Anne, vous êtes céramiste. Alors ici, vous présentez quelques échantillons de vos créations et on voit des tableaux qui présentent des céramiques. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des tableaux, mais bon, ça a la forme de tableau. Et on a des nez qui voilà. Qui émergent de toutes les couleurs. Et
oui, effectivement, ce sont des sculptures de nez. Il y a des sculptures murales et des sculptures à poser. Et en fait, ma liberté d'artiste, c'est des personnages dont je m'inspire, mais on ne voit que le nez.
Alors pourquoi cette fascination ou obsession, je ne sais pas, pour le nez?
Alors, ce n'est pas vraiment une obsession. Disons que c'est le parcours dans mes créativités qui m'a poussé à valoriser cet organe qui est quand même assez étrange. On a chacun le sien, il est chargé de tabous, il nous sert énormément tous les jours à sentir. Et je me suis dit que c'était un organe qui était valorisé par l'art littéraire, mais pas par l'art visuel. Ce sont des personnages qui ont existé, mais pas toujours. Quelquefois, il y a aussi des créations. Comme là, par exemple, Léviathan, c'est un nez complètement imaginaire. Et puis, j'ai une série de sculptures inspirées des portraits que Picasso a peints dans sa période cubiste, portrait de femme. Donc, en fait, je regarde la peinture. Et puis j'extrais le nez, mentalement j'extrais le nez et je le modèle en trois dimensions alors qu'en fait la peinture il est plat. Quoi.
Vous avez une formation de céramiste, du coup vous avez fait les beaux-arts, enfin, quel est votre parcours en quelques mots?
Non, moi j'ai plutôt un parcours de l'anatomie, la communication et voilà. Et puis après, enfin je suis arrivée à faire de l'art, enfin.
Donc aujourd'hui c'est votre activité principale?
Exactement. Et sinon, évidemment, heureusement, j'expose dans des lieux divers et variés, comme le Grand Palais, une galerie à Saint-Germain. La prochaine exposition, ce sera La Place, qui est près de Saint-Eustache. C'est une galerie qui expose, qui vend des parfums et de l'art.
C'est très original. Alors, je rappelle donc, puisqu'on fait une petite balade, que cet atelier se situe donc au 36 rue de Bagnolet. Il faut faire quelques pas pour rentrer dans la cour. Donc.
Voilà.
Merci Anne.
Merci
beaucoup. Bonjour Sarah Aviam. On est ici dans un endroit assez original, puisque moi j'ai monté quelques escaliers au fond d'une cour, et puis on est arrivé dans une autre cour avec beaucoup d'arbres, c'est très vert ici, et on est en plein Paris pourtant,
tout à fait,
dans le 20e arrondissement toujours. Mmh. On est rentré au 83 rue de Bagnolet, et ici donc c'est un atelier d'artistes. Quel artiste vit?
Alors en fait, ici, c'est l'atelier d'Alain Péclard et de moi, Sarah Aviam, et donc mon atelier est au-dessus de celui d'Alain, et pour éviter des montées dans l'escalier en colimaçon, Alain m'accueille dans son atelier. Donc Alain Péclard est sculpteur et moi je suis peintre, donc c'est mon mari. Et puis donc ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça. En fait, on a fondé l'association en 88. Et la première année, nous étions 12 artistes, donc toujours dans ce petit périmètre qui va de la rue de Bagnolet au boulevard de Charonne, rue d'Avron et rue des Pyrénées. Donc ça fait un carré quoi, dans lequel il y a, dans cet espace-là, beaucoup d'artistes qui ont leur lieu. Donc vous avez des fonds de cour comme chez nous, de ces lieux un peu arborés, très verdoyants et très, très jolis, on va dire. Vous avez des anciennes boutiques qui sont devenues aussi des ateliers d'artistes. Et en fait, il faut aller à la rencontre de tous. Donc cette année, on est 41 artistes à présenter nos œuvres dans 28 lieux. En fait, il y a 28 ateliers qui ouvrent leurs portes. Donc vous avez des céramistes, des graveurs, des peintres, des sculpteurs, des photographes.
Alors un petit mot supplémentaire sur cette association donc, qui organise ces portes ouvertes. Je crois qu'il y en a une au printemps, donc c'est celle-ci là où on est actuellement, peut-être une deuxième en hiver, je crois.
Oui, c'est ça, en décembre.
En décembre, on fait ça en deux par an.
Oui.
Et est-ce que en dehors de ces portes ouvertes, vous organisez aussi au cours de l'année d'autres événements comme des expositions d'artistes?
Il nous est arrivé de faire des expositions collectives hors portes ouvertes, mais avec des thèmes, des thèmes qui nous réunissaient. Par exemple, la dernière, c'était les illustres du Père Lachaise. Donc chaque artiste a choisi un artiste enterré au Père Lachaise et a fait une œuvre picturale sur ce thème-là. Et l'expo avait eu lieu à la médiathèque Marguerite Duras. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Mais en principe, ce qui nous réunit vraiment, ce sont les portes ouvertes qu'on organise, parce que c'est nous qui l'organisons. On a des subventions de la mairie et grâce à elles, évidemment, on peut fonctionner et que l'événement donne envie de venir vers nous, quoi.
Et puis c'est vraiment la vie de quartier artistique, si j'ose dire, voilà, qu'on découvre et qu'on ne connaît pas forcément, qui est un peu caché derrière des porches. Et là, on découvre des lieux comme cet atelier. Donc c'est votre mari qui expose ici.
Son travail.
Alain
voilà.
Péclard.
Voilà. J'ai même cravate aujourd'hui pour ça. Là, je suis fidèle au poste. Je compte les gens qui rentrent. Là, j'ai oublié, on est déjà, c'est 2h30. On est à, je crois, 200 personnes.
Alain, un petit mot quand même sur votre démarche, parce que j'ai l'impression que c'est très axé sur de la géométrie.
Non, actuellement, parce que j'ai quand même un certain âge. Actuellement, c'est la cosmologie, et pour comprendre la cosmologie, je pense qu'il faut passer par la physique. Et je commence par la physique, là-bas c'est Ptolémée, les Grecs, et là c'est plutôt Einstein. Comprendre Einstein, après on comprend peut-être comment ça fonctionne tout là-haut.
Voilà, on voyage un petit peu en tout cas dans d'autres dimensions.
Oui. Moi je fais ça parce que quand on est sorti des grottes, on a peint dans les grottes, qu'est-ce qu'on a vu à l'extérieur. Et aujourd'hui on fait encore la même chose. Moi, j'interprète des choses qu'on ne voit pas. L'air, la lumière, tout ça. Et c'est mon travail.
Voilà, un petit peu de mystère aussi. Merci beaucoup, Alain Péclard.
Pas trop de mystère.
Pas trop, tout petit peu.
Oui, un petit peu, oui. Ben oui, quand on ne comprend pas, c'est toujours mystère. Mais dès qu'on comprend, ça devient réel.
Thank you. Christine Gendre-Bergère.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
On est dans votre atelier qui est dans... Alors, qui est rue du Repos. C'est une rue qui longe le cimetière du Père Lachaise. Et ici, en plus, on est dans un endroit assez atypique, improbable même. C'est un box à voiture que vous avez transformé en atelier.
Oui, c'est ça.
Alors, tout petit, mais très fonctionnel.
Mm-hmm.
Des gravures figuratives, d'après ce que
ouais.
je vois à peu près. Et avec quelques inspirations de maîtres anciens, non ?
Aussi, oui. Alors, enfin, inspiration de maîtres anciens, je ne sais pas, mais au moins... Ça,
Il y a certains motifs que je crois reconnaître,
oui,
de
j'ai
Courbet
fait...
ou autres.
Voilà. Alors, sur Courbet, c'est la dernière gravure que j'ai faite. Et en fait, c'est plutôt une gravure, disons, d'inspiration écologique. Voilà. Puisqu'en fait, j'ai, de façon un peu ironique, je me suis inspirée d'un tableau de Courbet, mais qui s'appelle La rencontre ou Bonjour Monsieur Courbet, et c'est devenu La rencontre ou Bonjour Monsieur Monsanto.
D'accord.
Voilà.
Il y a un petit détournement.
Il y a un détournement, voilà. C'était plus un détournement qu'une inspiration.
Alors, c'est beaucoup de noir et blanc, mais dans cette gravure en particulier, vous avez introduit un peu de couleur.
Oui, un orange presque fluo, puisqu'en fait, le glyphosate, je crois, est appelé aussi le liquide orange.
D'accord, donc là, c'est aussi
donc
en
c'était
lien
lié à ça, voilà.
Avec cette œuvre un petit peu plus engagée, peut-être, ou non.
Oui, enfin, engagée, ça ne me gêne pas. Ben, j'ai aussi pas mal de thèmes d'inspiration qui sont liés... à l'actualité. Hein. J'ai toute une série là, qui est récente, que j'ai terminée l'année dernière, qui s'appelle Lampedusa ou le passage de la mer, donc sur les migrants. Voilà, j'ai aussi quelques inspirations comme ça.
Alors, j'avoue qu'en regardant un petit peu le programme, parce que là, on fait une sorte de promenade sonore dans le 20e, on a découvert déjà, juste avant vous, plusieurs ateliers. J'ai eu un petit coup de cœur quand même pour vous en regardant un petit peu, voilà. Donc je voulais absolument venir ici parce
Merci.
Que je trouve que vous faites un travail vraiment formidable et minutieux et je pense que c'est intéressant de venir vous découvrir. Est-ce qu'on peut aussi vous découvrir à travers des expositions, j'imagine, au cours de l'année ou dans d'autres lieux
Oui, alors déjà cet été, je vais exposer toute ma série de femmes graveurs, donc qui sont des grandes gravures, hein, où il y a 12 portraits, dont un autoportrait, voilà.
Là, je vois l'autoportrait.
Et, voilà, et donc ça va être exposé dans un très beau lieu, un peu loin, mais à Salerne, hein, qui est en Provence, qui est l'atelier Gabriel des amis de Claude Breton et Marcel Roche. Voilà, pendant tout le mois de juillet. Ensuite, je vais avoir quelques gravures aussi à l'atelier Taylor, la fondation Taylor, donc au mois de septembre.
Alors Christine, juste un tout petit mot pour qu'on comprenne un peu votre atelier, comment il est constitué. Donc il y a deux étages,
ouais.
Donc vous avez creusé en fait en dessous de l'ancien box à voiture pour agrandir un petit peu l'espace.
En faisant deux étages, donc on a creusé d'1,50 m, on a remonté d'1,50 m et on a fait deux niveaux. Donc là vous êtes dans le niveau haut, on peut dire, et c'est là que j'ai une grande table et que je grave, que je dessine. En fait.
Vous travaillez ici tous les jours.
Ouais, voilà. Et à l'étage du dessous, vous avez la partie la plus technique de mon atelier, où là, il y a l'eau, il y a l'acide, quand je fais de l'eau forte, et où il y a surtout ma presse qui me sert à imprimer les plaques de cuivre que j'ai gravées.
Et donc, si je comprends bien, vous faites principalement de l'eau forte ?
Alors, oui, ma base de travail est beaucoup l'eau forte, mais après, avec l'eau forte, je mélange d'autres techniques comme la pointe sèche, des morsures directes, un petit peu d'aquatinte, bon, j'en fais pas beaucoup, un petit peu de manière noire, voilà.
Et depuis combien de temps ?
Ça fait une trentaine d'années que je fais de la gravure, mais ça fait 10 ans que j'en fais beaucoup.
Alors, je descends juste voir la presse, du coup.
Ouais.
Je vous suis.
Donc, voilà. Donc c'est un atelier, mais j'ai quand même une grande presse.
Oui, qui tient une grande place, mais ça permet de faire des grands formats, je pense.
Oui. Ouais. Oui, parce qu'elle fait, en fait, je peux mettre des papiers, enfin, elle fait 75 de large, mon plateau fait 75, donc je peux mettre un papier jusqu'à 75. Voilà, et mon plateau fait 1,50 m de long.
Alors, dans ce petit nid particulier, vous vous sentez bien pour travailler, c'est l'atmosphère qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît ici?
On est dans Paris et en même temps, on est à l'écart, on est presque à la campagne. On a des petits lieux avec pas mal de plantes. Voilà, c'est agréable, quoi. On est tout près du Père Lachaise. Donc, le Père Lachaise, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'oiseaux dans la rue, ce qui est très agréable. Hein. Le soir, on entend le merle chanter. Et voilà, on est un petit peu on est à la fois très proche, on a deux lignes de métro à moins de 5 minutes et en même temps on est à l'écart de du bruit de la ville, quoi.
Et alors vous habitez juste en face,
oui.
C'est ça, donc c'est vous sortez le matin et hop, vous êtes dans votre atelier.
Je suis dans mon bureau, pour dire.
C'est super.
Voilà.
Merci beaucoup Christine Jean-Bergère.
Merci. Merci.
À l'instant, c'était comme ça, juste avant que vous arriviez. C'est-à-dire que ça, c'était encore solidaire de ça. Le micro était là. Quand je travaillais sur la pièce, ça récupérait le son qui partait là-bas. Et voilà, et là, je le faisais juste pour les besoins de la démonstration, comme ça, pour les portes ouvertes. Mais d'habitude, c'est une performance avec mon ami qui, lui, récupère le son. Et à partir de là, il crée une atmosphère sonore avec cette amorce de son qui vient soit de la frappe, soit de la râpe ou d'autres outils.
Super. Donc ça, c'est le son du sculpteur, alors?
Oui.
Sculpteur sur bois?
Pas que. Terre, pierre, bois. Donc la terre pour élaborer des effets, enfin des sculptures en projet. La pierre, en particulier l'albâtre, qui m'intéresse beaucoup pour sa transparence et sa lumière. Et effectivement, comme vous l'avez remarqué, beaucoup de bois, parce que j'en suis gourmand et qu'ils viennent principalement du Père Lachaise à côté.
Alors moi, je suis souvent passée devant cette petite devanture, ne sachant absolument pas que c'était un atelier d'artiste. Il y a une façade assez jolie. Mmh. Et donc là, vous êtes ici. C'est un lieu, expliquez-nous, il y a une histoire.
Ah oui, il y a tout à fait une histoire. En fait, c'est une ancienne marbrerie de 1828. C'est d'ailleurs marqué à l'entrée. Et la façade que vous décrivez, qui est très jolie, en fait, c'était le savoir-faire des artisans de l'époque. C'est-à-dire que sur la façade, ils avaient sculpté un peu tout ce qu'ils pouvaient représenter pour les tombeaux du Père Lachaise. Des gargouilles, des angelots, des écritures, de la gravure et ainsi de suite. Et ce savoir-faire, voilà, il le mettait au service du Père Lachaise. Le Père Lachaise, c'est 1804. Le début de l'art funéraire, c'est 1810-1820. Et le plein essor de l'art funéraire, c'est 1830. Et voilà, donc là, on est vraiment dans les premières grosses marbreries qui commencent à avoir du pouvoir dans le quartier. Et si toutes les grosses à côté ont pris, elles sont devenues de plus en plus grosses, on va dire, et elles ont été rachetées par des groupes américains et ainsi de suite, celle-ci est restée toujours une petite marbrerie, mais qui date de cette époque-là.
Oui, on sent le côté un peu artisanal, une petite atmosphère comme ça. Mmh. Alors vous, Julien Signolet, vous êtes... marbrier funéraire,
non,
mais,
pas du tout.
Mais sculpteur contemporain.
Absolument.
Et vous avez choisi ce lieu ou ça a été un petit peu le fait du hasard?
Bon, c'est le fait du hasard. Vous savez, pour trouver un atelier dans Paris, c'est extrêmement complexe. Donc, surtout quand les lieux comme ça ne sont pas ni dans les agences, ni dans les circuits classiques, on va dire. Donc, pour trouver un lieu un peu désuet qui me permette et de travailler et de faire du bruit sans gêner tout le monde. Donc voilà, ça a été un an de recherche avant de trouver cet atelier, qui était un peu laissé à l'abandon quand je l'ai récupéré, et voilà. Et ma démarche pour le trouver, ça a été d'identifier les lieux abandonnés dans Paris, que je voyais comme ça en pied d'immeuble, et comme ils ne sont pas référencés nulle part, j'allais au cadastre pour récupérer les noms des gens qui en étaient propriétaires, et j'appelais les gens pour savoir... pourquoi ces lieux-là étaient à l'abandon et s'ils ne souhaitaient pas qu'on en fasse quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai eu cet atelier.
Alors, vous avez beaucoup de monde là qui vient vous voir, donc je vais pas vous retenir trop longtemps, parce que ce sont les portes ouvertes, donc là, il y a pas mal de visiteurs. Mais un petit mot quand même sur votre travail. Je vois des sculptures qui sont assez généreuse en rondeur. Oui. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites, du figuratif, de l'abstrait, du monumental ou pas.
Alors moi je navigue entre le figuratif et l'abstrait, entre le monumental et le minimaliste aussi. Vous voyez, il y a des œuvres extrêmement petites. Comme je vous l'ai dit, je travaille donc la terre pour élaborer mes projets, et ensuite soit je les réalise en pierre, soit je les réalise en bois. Et mes thèmes de travaux ont été, par le passé, le I Ching, qui est un traité philosophique chinois, plusieurs fois millénaire, mais là il faudrait qu'on ait plus de temps pour que je vous en parle. Et aujourd'hui, les sujets qui m'inspirent, c'est le zen japonais, et sur une approche du wabi-sabi, je ne sais pas, c'est une autre...
Il faudra encore faire un autre
sujet encore.
Et alors, il y a peut-être que quelques inspirations quand même des grands sculpteurs d'art moderne comme Jean Harpe ou
alors,
des gens
de
comme
art,
ça, parce que
sûr,
ça
mais...
fait penser quand même à ça, comme quand je vois de manière un peu rapide comme ouais, ça ouais. Vos œuvres.
Moi, ma période artistique préférée et la plus inspirante pour moi, c'est l'art moderne, bien sûr. Mes grandes sources d'inspiration sur les grands maîtres du passé, c'est Brancusi, Harpe et Moore, on va dire. Barbara Epworth aussi.
Vous faites du monumental, vous m'avez dit. Oui. Est-ce qu'il y a des sculptures qu'on peut voir dans l'espace public que vous avez faites dans quelques endroits à citer comme ça, juste pour vous connaître un peu mieux?
Alors, principalement au parc floral. Il y en a une dans le parc floral. En fait, ce qui se passe, c'est que je taille des arbres sur pied. Et in situ, bien sûr. Donc en fait, le parc floral m'appelle quand ils ont un arbre à abattre, et moi j'inscris un projet dans cet arbre. Il y en a une dans le parc floral, il y en a une devant le parc floral, il y en a une à l'arboretum. Voilà.
D'accord, très bien. Donc on peut se balader aussi dans le parc floral et découvrir votre travail. Merci Julien Signolet, c'était un plaisir de faire cette visite, et puis avec toutes vos explications. En plus, vous êtes professeur aussi, je crois, vous enseignez.
Absolument, oui.
Vous enseignez donc, vous transmettez aussi votre savoir-faire, j'imagine.
La taille directe, voilà. Moi, j'enseigne la taille directe depuis 10 ans dans l'atelier. Et voilà, c'est un art qui se perd un peu, on va dire. Et il n'y a pas beaucoup de passeurs, de transmetteurs. Donc, je me fais un devoir que de transmettre cette pratique au plus grand nombre et à toutes les personnes de tout âge.
Bien voilà, donc notre promenade se termine avec vous, Julien. On va vous laisser continuer de présenter et d'ouvrir vos portes encore quelques jours. Notre petite promenade sonore au cœur du 20e arrondissement pour découvrir les artistes du Père Lachaise associés se termine donc rue de la Roquette. C'était la rencontre avec Julien Signolet, donc ce sculpteur qui se trouve tout en haut de la rue de la Roquette, juste à côté du Père Lachaise. Je vous quitte ici et puis évidemment je vous invite à aller découvrir ces artistes lors des prochaines journées portes ouvertes, puisqu'il y en a deux par an. C'est la fin de la chronique Quartier d'art avec Julie Chaise-Martin, et je vous retrouve la prochaine fois pour découvrir à nouveau d'autres lieux d'exception.